Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Eh bien, nous parlons Europe toute cette semaine sur Bretagne 5, puisque nous sommes presque en direct, je devrais dire, ce matin depuis Plogue-sur-Lier, dans les Côtes d'Armor, pour ce séminaire européen leader. Et nous allons parler Europe ce matin avec Irène Toléré. Elle est députée européenne. Elle s'occupe également du fonds de cohésion de l'agriculture et aussi du droit des femmes et de l'égalité des genres, sujet important. S'il en est en ce moment également. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Eh bien, comme un matin, à la radio, voilà. Et on va donc, avec vous, Irène Toléré, parler des territoires aussi, puisque je le disais en commençant, vous vous occupez du fonds de cohésion de l'agriculture. De quelle manière on pourrait qualifier, définir un territoire rural ?
Il y a une définition qui a été évoquée hier lors de la journée à Plogue-l'Hermitage de Leader France. C'était qu'un territoire rural, c'était un territoire dont 85% de l'espace était non bâti.
Voilà, donc ça c'est la définition, j'allais dire technique, mais on sait aujourd'hui que les territoires ruraux, qui restent des territoires ruraux, accueillent aussi beaucoup d'urbains qui viennent y vivre, qui viennent y travailler. Est-ce que ça amène aussi une réflexion de l'Europe pour aménager ces territoires ?
Oui, la crise Covid a entraîné des nouvelles prises de conscience sur les limites de l'urbanisme en ville. La gestion des espaces verts, quand on a des enfants, la gestion des petits espaces. Et donc, on a eu un phénomène, non pas d'exode rural, mais de redécouverte des espaces ruraux, avec, et je crois que la Bretagne en bénéficie énormément, l'arrivée de néo-ruraux. On les appelle des néo-ruraux. Ils viennent de la ville et ils veulent ville comme à la vigne, ville à la campagne. Et ça provoque beaucoup de discussions et nécessite beaucoup d'investissement aussi.
Voilà, parce qu'on sait que le travail à la campagne, ça nécessite par exemple la fibre. Alors c'est un débat récurrent ici en Bretagne. Est-ce que justement l'Europe intervient, l'Union européenne intervient sur tous ces aménagements techniques ? Alors on pense à la fibre, mais aussi on peut imaginer des aménagements comme le satellite pour recevoir Internet lorsque l'on n'a pas la possibilité d'avoir accès justement à la fibre. Est-ce que l'Europe et plus particulièrement l'Union européenne travaille sur ces problématiques?
Oui, et d'ailleurs, je crois que l'Union européenne est un gros financeur du déploiement de la fibre actuelle en Bretagne. Alors, nous avons la chance dans la région Bretagne d'avoir des élus qui n'hésitent pas à dire quand il y a des fonds européens qui interviennent. Il y a d'autres régions où c'est plus silencieux et donc les habitants ne se rendent pas compte à quel point justement ces notions de communication prennent en compte les nouveaux réseaux, les nouveaux besoins. Et l'Europe est au rendez-vous pour accompagner. Parce que c'est l'avenir des zones rurales, de leur économie. On voit bien tout ce que la ruralité peut apporter. Mmh. Face au changement climatique, face aux crises géopolitiques, face aux crises pandémiques, la ruralité est un des facteurs de résilience qui a expliqué qu'on a mieux résisté au niveau européen, au niveau économique, que d'autres pays plus métropolitains.
Alors, j'en ai parlé avec quelques-uns des invités qui se sont succédés à ce micro dans le cadre de ce séminaire européen. Qu'est-ce qui fait que les Français, alors les Bretons sont assez européens, mais qu'est-ce qui fait qu'en général, on râle toujours contre l'Europe ? On dit, voilà, c'est compliqué, ça nous apporte des normes. Voilà, il y a ce côté, on n'aime pas l'Europe, et pourtant, on s'aperçoit que la France est plutôt européenne.
Alors, le sujet de l'Europe des normes, c'est, entre guillemets, nous qui l'avons voulu. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'on a une pression sociétale sur tout un tas de sujets, sur les pesticides, sur la qualité de l'air. Donc, la réponse du politique à ces injonctions sociétales, c'est une norme pour avoir moins de pesticides ou pour... Et donc après, derrière, quand la norme au niveau de 27 États membres, elle est pondue, elle doit s'appliquer dans les 27 États membres. Et parfois, si au niveau du Parlement européen, nous sommes co-législateurs, nous avons des élus qui ne sont pas suffisamment élus de la réalité, parfois on peut faire des choses un peu compliquées à mettre en place. Et quand c'est compliqué à mettre en place au niveau européen, de toute façon, au niveau national ou au niveau régional, on n'est pas les derniers pour rajouter des trucs dessus. Donc on peut vraiment faire des usines à gaz. Et donc moi, en tant que députée européenne, c'est un de mes objectifs, c'est d'éviter ça.
Alors, sur les fonds européens, si on voit aujourd'hui, puisqu'on en parle ici à Pleuc-l'Hermitage, j'ai dit Pleuc-sur-Lié en commençant tout à l'heure, c'est l'ancien nom de la commune, hein, c'est Pleuc-l'Hermitage. On en a beaucoup parlé ici à Pleuc-l'Hermitage. Souvent, l'obtention des fonds européens, c'est pour les petites communes, un peu la croix et la bannière, le parcours du combattant, parce que les dossiers sont très techniques, sont très compliqués. Est-ce qu'un jour, on arrivera à une forme de simplification, finalement ?
C'est en tout cas mon engagement. Alors pour arriver à la simplification, on en parle, mais encore faut-il le faire. Donc déjà, pour arriver à la simplification, il faut déjà se faire confiance. Donc les fonds européens sont très encadrés, ils sont déployés par des autorités de gestion qui peuvent être nationales ou régionales. On n'est pas dans des pays où les dépenses de l'État ou des régions ne sont pas contrôlées. Donc je pense que c'est possible qu'on arrive à simplifier l'accès aux fonds européens en se faisant plus confiance au niveau des collectivités qui administrent. Après, pour simplifier, il faut bénéficier, par exemple, comme dans le programme LEADER, d'interlocuteurs très locaux. Mmh. Et donc, quand on arrive avec le projet... à Pleuc-l'Hermitage, vous allez avoir les personnes du GAL, donc le groupe d'action locale du Fonds européen LEADER, qui vont vous accompagner pour que votre projet sorte de terre. Et ça, c'est une autre façon de simplifier les choses, c'est ce qu'on appelle le aller vers. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, je crois, parce que ça crée une courroie de transmission entre le local et le niveau européen, et qui peut arriver à aussi... arrêter les bêtises qu'on peut faire à Bruxelles.
Voilà, oui, alors il y a des bêtises qui sont faites à Bruxelles, il faut bien le dire, vous le reconnaissez, c'est bien, mais on voit quand même aujourd'hui que l'Europe s'installe, et vous le disiez tout à l'heure, en commençant, l'Europe s'installe finalement dans les mentalités. Alors on ne peut pas passer sous silence ce qui se passe en Ukraine, cette guerre aux portes de l'Europe. Des décisions ont été prises très rapidement, dès le début du conflit, par l'Union européenne, par les 27 États membres, et puis on voit cette volonté de lancer le processus, finalement, de faire entrer l'Ukraine et plusieurs autres pays de la région dans l'Union européenne. Est-ce que, là aussi, il faut simplifier ? Alors, on sort un petit peu de LEADER, mais c'est intéressant. Mais est-ce qu'il faut simplifier et dans des cas pareils, pouvoir aller beaucoup plus vite sur la procédure, justement, d'entrée dans l'Europe, hein, d'un pays, justement, en guerre, en l'occurrence ?
Oui et non. Oui, bien sûr, par rapport aux Ukrainiens, mais pas que, avoir une procédure un petit peu, peut-être pas accélérée, mais en tout cas que l'on communique très vite sur le fait qu'on enclenche cette démarche, oui. Cependant, l'Union européenne, c'est une union de valeurs. Et donc, il est aussi important que les États membres qu'on accueille respectent ces valeurs. Dans ces valeurs, il y a pas de peine de mort. Par exemple, on a des sujets sur l'égalité homme-femme, sur les violences faites aux femmes. Donc c'est très important qu'on ne fasse pas rentrer, entre guillemets, des loups dans la bergerie. Le mot est trop fort. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a une situation particulière sur l'Ukraine qui fait que, bien entendu, nous devons être au rendez-vous de l'histoire. Cependant, dans la procédure, nous devons quand même faire attention à ce que ces valeurs soient respectées. Il n'y aura pas de problème, mais sur le principe, on a pu voir des reculs sur l'avortement.
Voilà, alors je pense à la Pologne, par exemple. On pense aussi à la Hongrie, qui sont des pays qui se sont mis un petit peu à la marge de l'Europe. Voilà, on a le sentiment que l'Europe marche pas toujours à la même vitesse en termes d'égalité. On parlait aussi de l'égalité des genres tout à l'heure, parce que je le disais en commençant, vous êtes aussi en charge du droit des femmes et de l'égalité des genres. On s'aperçoit que des pays ne jouent pas le jeu, par exemple. Est-ce que l'Europe doit sanctionner à ce niveau-là, par exemple ?
Alors déjà, il y a des outils qui sont prévus pour les sanctions. Alors après, c'est l'efficacité des outils où on a eu un peu du mal, puisqu'il y a donc la chose fondamentale, c'est le respect de l'état de droit, c'est-à-dire le fait d'avoir une justice indépendante. Si vous n'avez pas une justice indépendante, n'importe quel chef d'État mal intentionné peut faire voter à peu près n'importe quelle loi. L'avortement en Pologne, elle l'avait depuis 1983. Il n'y a eu aucune demande des femmes d'arrêter d'avoir l'avortement. Or, on a eu ce recul qui s'est passé en Pologne et qui a été accompagné par le fait qu'il y ait des juges qui aient été nommés par le gouvernement et donc aux ordres. Donc c'est très important qu'on... La valeur fondamentale à respecter, c'est l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a aussi avoir des médias libres et indépendants, comme vous aujourd'hui, qui peuvent porter la parole des territoires, mais aussi des oppositions. Donc c'est très important d'être informé, et on voit bien aujourd'hui, en temps de guerre, à quel point c'est important d'être informé. Donc il y a des outils, on a les sanctions sur l'état de droit qui sont prévues, cependant, elles pourraient être lancées, elles nécessitaient l'unanimité. C'est pour ça que la position française avant le conflit, la position aussi de mes collègues au Parlement européen, c'était de dire de ne pas avoir de nouvelles entrées tant qu'on n'est pas sorti de cette règle de l'unanimité. Parce que tomber d'accord à 6, c'est pas du tout la même chose que tomber d'accord à 27. Et l'unanimité à 27, surtout quand on a des accords de type Visegrád, c'est-à-dire 4 pays...
Visegrád, dites-nous, parce que là, c'est un terme.
C'est un groupe de 4 pays qui ont décidé d'être solidaires sur tout un tas de sujets. Et concrètement, ça veut dire que s'il y a des menaces de sanctions sur un des pays, il y aura au moins un des 3 autres qui mettra son veto. Et donc, on ne pourra pas utiliser l'outil des sanctions état de droit, qui nécessite un vote à l'unanimité. Donc on a évolué, donc, notamment grâce au plan de relance, et donc on a mis en place, l'initiative du Parlement européen, un outil de sanctions sur le plan de relance. Et donc les fonds du plan de relance ne sont pas débloqués s'il y a un sujet sur l'état de droit. Et là, c'était un vote à la majorité qualifiée, et donc du coup, ces sanctions sont aujourd'hui opérationnelles, mais le conflit ukrainien a commencé. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Unis dans la diversité, on peut voir les trucs qui vont pas, mais on peut aussi voir les trucs qui vont bien. Et aujourd'hui, je voudrais saluer nos collègues polonais qui sont au rendez-vous de l'accueil des Ukrainiens, et Dieu sait qu'il y en a besoin.
Voilà, ils ont été aux premières loges, hein, et ils se sentent menacés aussi, hein, par le côté expansionniste, on pourrait le dire comme ça, de la Russie. Un dernier mot sur le droit des femmes et l'égalité des genres. Aujourd'hui, on voit beaucoup de recul. Alors là encore, en Europe, hein, vous faisiez allusion à la Pologne tout à l'heure, on parlait également de la Hongrie, mais on a des élections en France et on a une montée importante de l'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, la députée européenne que vous êtes ?
Les reculs sur les droits des femmes m'inquiètent, comme les reculs sur les droits LGBT, car en fait, ce sont les premières catégories sur lesquelles on tape quand on veut prendre le pouvoir de manière illibérale. C'est une façon de diviser la société, de créer des petits groupes, et après, on parle pas des vrais sujets, et on peut arriver à se faire élire avec ça. On a un candidat à la présidentielle qui s'en fiche, comme de l'an 40, qui le dit, et il faut surtout pas voter pour lui, parce que 52% de la population sont des femmes, que l'intégration des femmes dans la vie économique, c'est de la croissance en plus, c'est de la richesse et de l'emploi en plus pour tout le monde, que les femmes, ce sont aussi nos mères, nos sœurs, nos filles, nos cousines, nos copines, et donc la violence contre les femmes, il faut la prendre au plus tôt. Je voudrais saluer le travail du gouvernement qui a été fait sur ce point-là. On peut aller plus loin. L'Union européenne, on peut échanger des bonnes pratiques. C'est un projet que nous portons de plateforme qui va être, je crois, présenté aujourd'hui autour du pacte Simone Veil, c'est-à-dire d'identifier les meilleures législations au niveau européen pour les droits des femmes. Et si une législation marche bien dans un pays pour les droits des femmes, il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent pas bien marcher. Donc présentons-les dans les autres États membres et faisons en sorte que, unis dans notre diversité, on arrive plus loin sur ces sujets. On aura une société dans laquelle il fera bon vivre. C'est ce qu'on veut.
Voilà, c'est important. Le bon vivre. Allez, un dernier mot sur les femmes. Elles sont nombreuses à nous écouter sur Bretagne 5. Et je connais quelques jeunes femmes agricultrices qui nous suivent avec attention. Elles sont nombreuses dans nos campagnes. Merci en tout cas d'être venue au micro de Bretagne 5, Irène Toléré. Je rappelle que vous êtes députée européenne. Vous vous occupez également du fonds de cohésion de l'agriculture. Et on l'aura compris également du droit des femmes et de l'égalité des genres. Et c'était important d'en parler ce matin. Merci infiniment d'être venu à notre micro et belle journée.
Merci beaucoup à tous et très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.